Bonsoir à chacun. Voilà, on est toujours dans le thème de notre relation avec les autres, ma relation avec les autres. Alors, on va faire trois lectures. Vous allez vous demander sûrement pourquoi j'ai pris ces trois lectures qui n'ont rien à voir apparemment, mais on va voir que ça a à voir. Alors, Genèse chapitre 1er, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Première lecture. Deuxième lecture. Toujours Genèse, chapitre 2, verset 16. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Et une dernière lecture, Éphésiens, chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, pour ceux qui étaient là, la semaine de prière, j'avais pris ce verset, parce que c'est ce verset qui m'est venu à l'esprit, hein, j'avais dit la première fois, quand je pensais à ma relation avec les autres, c'est ce verset d'Éphésiens 5, verset 21, qui m'est venu à la pensée. Et donc, j'en avais parlé, j'avais abordé, suite à ce qu'avait dit Philippe le midi, il avait parlé de l'humilité, et donc je l'avais mis en rapport avec cette soumission réciproque, etc. Et voilà, donc si vous étiez là, vous avez peut-être retenu quelque chose, enfin je ne sais pas, mais là, on va aller un peu plus loin. Alors, dans ce thème, ma relation avec les autres, je n'ai pas pu m'empêcher de revenir à l'origine de toute relation entre les êtres humains. La volonté de Dieu s'est exprimée dans ce premier texte de la Genèse. Il donne à l'homme, à l'être humain, donc à l'homme comme à la femme, la gestion de la terre. Il les a créés simultanément. Hein, Dieu créa l'homme, c'est-à-dire l'être humain. Il créa l'être humain. Et il le créa, mâle et femelle. Donc, il les a créés et il les a créés à son image. Or, si on pense un petit peu à la relation que Dieu pouvait avoir avec sa création, cette relation que Dieu avait avec sa création était basée sur la confiance, puisqu'il donne à l'homme et à la femme la gestion de la terre. Il va leur donner, que ce soit pour l'entretien du sol, des plantes, des animaux, ils sont là pour gérer. Donc, Dieu, déjà, a une relation de confiance vis-à-vis de l'être humain. Donc, je me suis dit que notre relation à l'autre devrait être donc basée sur la confiance. Malheureusement, on l'a vu, le travail de l'adversaire a complètement perverti, je dirais, ce plan divin, et ça a eu pour conséquence que la confiance, elle a complètement disparu. Et elle a laissé la place à une relation de dominant-dominé. C'est pour ça que j'ai pris ce texte de Genèse 2, où la femme, ton désir se portera vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Notre relation, donc, elle a été complètement dévoyée. Et on le voit donc dans cette sentence que Dieu fait à l'encontre, que Dieu a à l'encontre d'Ève. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Donc, cette relation de dominant-dominé n'est pas seulement retrouvée dans la relation des couples, mais aussi dans toutes les relations des êtres humains. Cet instinct de domination, c'est malheureusement tout de suite vu, déjà chez Caïn, vis-à-vis de son frère Abel, puisqu'il a voulu avoir la primauté dans l'offrande qu'il apportait. Il y a cet instinct de domination par rapport à son frère. Et cet instinct-là va l'entraîner même à avoir un instinct de mort sur son frère. Genèse 4, verset 3 nous dit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » On sent déjà se poindre dans le cœur de Caïn ce désir de vengeance et quelque part de basculer dans cette relation dominant-dominé. Cet instinct de domination, c'était pas prévu. Mais cet instinct-là, Dieu va demander à Caïn de l'exercer sur lui-même. Un peu plus loin, enfin, juste après, Genèse chapitre 4, verset 6, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. » Il nous faut donc dominer sur cet instinct de domination. Dieu nous demandait de dominer sur cet instinct de domination. Sinon, eh bien, on arrive à des situations de conflit telles qu'on peut les connaître actuellement, de guerre qui entraîne la mort. Et ce désir, quelque part, ce désir de domination a engendré l'esclavage, l'asservissement et toutes les déviances qui ont pu en résulter. Donc, la venue de Jésus a eu pour but de rétablir une relation juste entre tous les êtres humains. Et cette relation, qui avait dégénéré en dominant-dominé, devient alors une relation de soumission réciproque. C'est ce qu'on a lu dans la lettre aux Éphésiens. Mais cette soumission n'est pas faite n'importe comment. Elle n'est possible que dans la crainte de Christ. Et la version du Semeur apporte une précision sur ce verset parce qu'elle dit « Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » Et alors, entre parenthèses, le texte originel, il n'y a pas de point. Le texte est continu. C'est-à-dire que c'est comme si l'apôtre Paul donnait un exemple concret. Par exemple, vous les femmes, vous aussi, vous vivez dans cette soumission réciproque avec vos maris. Chacune en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres, les femmes, à leurs maris, etc. Donc, cette soumission réciproque, elle est une conséquence de notre respect de Dieu et elle doit s'exercer d'abord dans le couple, effectivement, pour s'étendre à toutes nos autres relations. C'est pourquoi ma relation avec les autres doit être basée sur la confiance. Sur la confiance, si je veux qu'il y ait une soumission réciproque. Alors, comment cultiver un climat de confiance ? L'apôtre Paul dit ceci aux Thessaloniciens, « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. » Il y a une confiance qui s'est établie entre Paul et les Thessaloniciens et il sait qu'ils vont accomplir ce qu'il leur recommande. La confiance de Paul était d'abord dans le Seigneur. Et à cause de cela, il pouvait avoir confiance dans les Thessaloniciens en leur soumettant des recommandations. À partir du moment où nous savons tous confiants dans le Seigneur, alors il peut y avoir un partage de projets et que nous pouvons nous soumettre les uns aux autres, et dans une confiance réciproque qui a d'abord été établie de cette manière. Alors, j'ai regardé un petit peu le principe de la confiance. Je suis allée voir sur Internet, là, et ils proposent, par exemple, des piliers, ce qu'ils appellent les piliers de la confiance. Les piliers, alors, j'ai mis ça du point de vue humain. Et la définition qu'ils nous donnent, c'est ceci. La confiance est la base pour construire des relations saines. Et je pense que, effectivement, déjà, si on veut avoir une relation saine avec quelqu'un, il faut déjà avoir confiance. C'est se donner sans rien attendre en retour. Et pour créer des liens relationnels positifs entre amis, famille, partenaires ou collègues, cela est nécessaire. Et alors, les piliers qu'ils nous proposent, c'est... Et j'ai trouvé intéressant parce que, effectivement, l'Évangile nous propose des exemples concrets. Par exemple, la sincérité. Sincérité qui va aussi avec la bienveillance qui nous permet de percevoir l'autre comme quelqu'un d'honnête. Et j'ai pensé à Jésus vis-à-vis de Nathanaël. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Il sentait Nathanaël sincère. Pourtant, Nathanaël avait une réflexion, mais peut-il venir quelque chose de bon ? Ben oui, mais il était sincère. Et Jésus l'a vu et il a pu avoir confiance en lui. Et Nathanaël a eu confiance en Jésus. La compétence, c'est distinguer son autonomie et ne pas soupçonner constamment de mauvaises intentions chez l'autre personne. Ça, c'est ce que nous donne ce que me donnait l'Internet. Là. Et j'ai pensé à ce verset de Matthieu 25 qui nous dit ceci. Son maître, c'est dans la parabole des talents, hein. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Il y a eu une reconnaissance de ses compétences, tu as été fidèle, là, dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Il y a eu de la confiance qui s'est établie, qui s'est installée, et il va lui dire, entre dans la joie de ton maître. Donc, la confiance est basée sur la sincérité, sur les compétences qu'on peut reconnaître chez l'autre, et sur la crédibilité et l'intégrité. Évaluer, voilà ce que nous dit, il nous dit évaluer qu'il remplit ce qu'il dit, que l'autre remplit ce qu'il dit, qu'il y a des preuves et une réalité dans ses actions. Et moi, j'ai pensé à l'attitude de Jésus quand il va voir Pierre après sa résurrection. Par trois fois, il va lui demander, Pierre, m'aimes-tu ? Pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre est attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paix mes brebis. Il y a une confiance qui est remise en relation là. Jésus sait, il le croit. Pierre est crédible quand il dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Il est crédible. Et Jésus lui fait confiance tout à nouveau. Et il nous parle aussi d'engagement et d'authenticité. C'est-à-dire que créer, là c'est peut-être le plus difficile pour nous, créer des liens émotionnels en assumant les risques de se montrer tel qu'on est. Parce qu'il y a un risque hein, de se montrer tel qu'on est. Mais c'est ça aussi, la confiance, elle est basée aussi sur ça, sur la vérité de ce qu'on est. Et Jésus va dire, par exemple, dans Jean 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Là, il y a vraiment un climat de confiance total. Et on peut dire que s'il y a un de ces piliers qui se brise, la confiance est menacée ou en tous les cas, elle est déséquilibrée. Elle risque de causer des dommages à la personne, en particulier sur le plan émotionnel. On sait qu'une personne qui a été trompée dans la confiance, émotionnellement, elle est quand même chamboulée. Il y a une histoire dans la Bible qui nous parle de confiance. ou qui nous interroge sur la confiance. C'est l'histoire d'Ézéchias. Je ne sais pas si... je ne l'ai pas mis. Je ne peux pas revenir en arrière. Non, ça ne fait rien. L'histoire d'Ézéchias. Dans 2 Rois, chapitre 18, au verset 19, voici ce que nous dit ce texte. Rabshaké, c'était leur dit, « Dites à Ézéchias, donc c'est le porte-parole du roi d'Assyrie, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ?» Alors, pour vous retracer un petit peu le contexte, Ézéchias, il devient roi à 25 ans sur le royaume de Juda. Il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il met sa confiance en lui et il réussit dans toutes ses entreprises. Et puis, il réussit tellement bien qu'à la fin, il se révolte contre le roi d'Assyrie auquel il était assujetti. Et du coup, il secoue le joug de l'Assyrie sur Juda. Il y avait une relation, quelque part, de dominant-dominé entre le roi d'Assyrie et Ézéchias. Mais la confiance d'Ézéchias vis-à-vis de l'Éternel lui a permis de changer sa relation au roi d'Assyrie. Mais malheureusement, les années ont passé, Ézéchias se met de nouveau sous le joug de l'Assyrie et le roi Sanchérib lui donne un ultimatum. Et on a à nouveau une relation dominée entre les deux rois. Et c'est seulement quand Ézéchias va revenir à l'Éternel en allant consulter Ésaïe, qu'il va changer sa position vis-à-vis de Sanchérib. Sa confiance va vers l'homme de Dieu non plus vers d'éventuels soutiens humains comme l'Égypte. C'est ce que sous-entendait Sanchérib. Il y a, soumission réciproque entre Ésaïe et Ézéchias parce qu'ils se soumettent à Dieu. Et je vous rappelle, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et là, Ézéchias et Ésaïe, quelque part, ils se soumettent l'un à l'autre. Ézéchias est pourtant le roi, Ésaïe est le prophète. Ils se soumettent l'un à l'autre parce qu'ils se soumettent à Dieu. Et selon nos choix de relation, nous pouvons, nous nous mettons dans une position de dominant-dominé ou alors de soumission réciproque si les deux parties sont soumises à Dieu. Paul nous dit de ne pas nous mettre sous un joug étranger. Ah ben si, c'est ça. Excusez-moi. Voilà ce qu'il nous dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Pourquoi Paul nous dit de ne pas nous mettre sous un joug étranger ? Le mot joug ici, là, c'est un mot grec qui signifie se mettre sous un joug déséquilibré, être inégalement attelé. Un petit peu, et lorsqu'on a une relation déséquilibrée, là, on risque fort de basculer vers ce travers, justement, dominant-dominé. Il y aura forcément un qui va obliger l'autre à aller à son rythme et là où il veut, par exemple. Et ils ne pourront pas avoir confiance l'un dans l'autre et la marche se fera au détriment du plus faible. Alors que quand Jésus nous parle de prendre son joug sur nous, son joug qui est léger, c'est qu'il se met à notre niveau et marche à notre pas. On peut lui faire confiance. Il nous fait confiance pour que nous soyons mutuellement en harmonie. Quelle différence entre le fait de se mettre sous un joug étranger qui va nous blesser, qui va nous abîmer quelque part. Et dans nos relations, je pense qu'il nous faut cultiver cette confiance en étant nous-mêmes vrais et honnêtes. Si nous avons été trompés dans une relation de confiance par le passé, ne généralisons pas à tout le monde. Parce que c'est un petit peu notre travers. Ah oui, mais maintenant, je ne ferai plus du tout confiance. Hein. J'ai été échaudée une fois, c'est fini, je ne donnerai plus. Et évitons de généraliser. Et rappelez-vous, Jésus a été trahi par Judas. Mais il a gardé confiance dans les 11 autres disciples. Même malgré leur faiblesse, Et même avec Pierre, il s'est à nouveau, il a rétabli sa communion avec Pierre, malgré sa faiblesse. Donc, nous de même, dans nos relations, cultivons d'abord cette confiance. Et puis, la confiance engendre la soumission réciproque. On va relire ce texte d'Éphésiens que nous avons lu au début. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Cette phrase-là, « vous soumettant les uns aux autres », elle vient après tout ce qu'on a lu. Elle n'est pas mise, vous vous soumettez, puis alors, non, il y a d'abord tout un processus. Et je pense que se soumettre les uns aux autres, c'est une preuve de maturité dans nos relations, de maturité spirituelle, mais aussi dans nos relations. On n'a rien à prouver à l'autre en ce qui concerne notre valeur. On est sur un pied d'égalité, Si on veut avoir une confiance, si on veut avoir une bonne relation à l'autre, il faut qu'on se mette sur un même plan, sur un pied d'égalité, du fait de notre appartenance à Jésus. Alors la soumission est réciproque, elle est simple, elle est facile. Et pour vivre une réelle soumission réciproque, il nous faut savoir accepter qui nous sommes vraiment. Et aussi, qui est l'autre avec lequel je suis en relation. Il peut être complètement différent de moi, complètement. Mais si je sais qui je suis, je l'accepte simplement. Je l'accepte simplement tel qu'il est et surtout tel que le Seigneur le connaît. Je crois que dans nos situations, on a nos responsabilités qui sont propres. Et dans une relation à l'autre, on ne peut pas fuir notre propre responsabilité, mais il nous faut aussi reconnaître celle de l'autre. Chacun, il y a un verset de la Bible qui dit « Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Nous sommes responsables, chacun pour notre part. » Et quand je pensais à ça, je me suis dit « Ouais, ben, tu vois, Cain, là, quand il dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Non, mais ça n'a rien à voir, là. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas responsables des autres, mais nous sommes quand même les gardiens les uns des autres. Lors de la chute, Adam et Ève ont rejeté leur responsabilité sur autrui. Vous vous rappelez, hein, Adam a rejeté sa responsabilité sur Ève, Ève sur le serpent. C'est Genèse chapitre 3. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Oui, et toi, la femme, ben, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, ben, le serpent m'a séduite, hein, et j'en ai mangé. Donc, personne ne n'assume sa responsabilité. Mais lorsqu'on a une réelle relation avec Jésus, que nous avons compris ce qu'il nous a révélé, ce qu'il nous a révélé au travers de sa vie, sa mort, et sa résurrection, nous pouvons alors réaliser qu'il nous invite également à avoir une relation avec l'autre telle que lui l'a voulu. On rejette pas on ne fuit pas ses responsabilités. S'il y a un problème entre deux, je reconnais ma responsabilité et je laisse à l'autre le soin de reconnaître sa responsabilité. Cette notion de soumission réciproque peut nous angoisser. Si on n'arrive pas à garder quelque part, si on a l'impression que notre personnalité est atteinte dans son intégrité, etc., ça peut nous angoisser. Mais c'est pour ça que l'équilibre peut paraître instable dans ce type de relation, soumission réciproque. Mais si nous tendons vers cette maturité à laquelle nous sommes appelés, cette maturité spirituelle, alors il est possible de vivre cette soumission réciproque. C'est pourquoi, avant de parler de soumission réciproque, vous soumettant les uns aux autres, avant de parler cela, Paul nous invite à avoir une vie remplie de l'esprit. La qualité de nos relations avec les autres s'améliorera toujours avec l'acquisition de la maturité émotionnelle, spirituelle, et que nous voulons rechercher avant tout. La vie, la mort et la résurrection de Jésus ne peuvent pas être dissociées dans la construction de notre être intérieur. Sa vie, elle risque de rester simplement un exemple si nous n'intégrons pas les valeurs qui l'ont animé. Sa mort, ça risque d'être qu'un épisode malheureux si nous ne nous l'approprions pas à nous-mêmes pour que nous soyons délivrés de toutes nos fausses conceptions sur ces mêmes valeurs de sa vie. Il faut que cette mort de Jésus fasse mourir en nous toutes nos fausses conceptions par rapport aux valeurs que Jésus nous a laissées, aux valeurs, en tous les cas, qu'on croit et qui ne sont pas conformes à celles que Jésus nous a laissées. Enfin, je dirais que sa résurrection, ça restera qu'un gentil conte de fées si nous n'entrons pas pleinement dans cette vie spirituelle qu'il nous invite à expérimenter. Donc, il y a nécessité d'avoir vraiment la vie, la mort et la résurrection. Les trois doivent s'imprégner en nous. On doit vraiment intégrer cette notion au niveau de la révélation de Jésus dans nos cœurs pour vraiment expérimenter quelque chose de nouveau. Et puis, donc, la soumission réciproque est possible en acquérant notre maturité en Christ. La puissance de l'Évangile doit produire en nous un changement de mentalité qui aura des répercussions forcément sur nos relations les uns avec les autres. Soit on se laisse enfermer par les conventions du monde qui prônent souvent la loi du plus fort, soit nous découvrons la liberté en Christ qui nous invite à avoir des relations en harmonie avec sa pensée. Galates 3, 26 nous dit ceci, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Et du coup, je me suis dit, je n'ai plus à regarder l'autre comme un homme ou une femme, comme un de mon pays ou un étranger, comme un patron ou un ouvrier ou que sais-je. Mais je le vois comme un enfant de Dieu, même, écoutez bien, même s'il ne le sait pas encore. Même s'il ne le sait pas encore. L'autre est une créature de Dieu, même s'il ne le sait pas encore. C'est possible, cette relation, elle est possible si nous sommes renouvelés nous-mêmes intérieurement par le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 17, « Voici donc ce que je déclare, ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits. » Verset 23. « Vous avez été instruits à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice que produit la vérité. » Nos relations risquent de changer complètement. Elles seront alors directement en accord avec le fruit de l'esprit qui seul peut nous permettre de vivre cette soumission réciproque. En nous centrant sur Jésus, qui seul peut nous transformer, nous développerons notre maturité tant émotionnel que spirituel. Parce que dans nos relations, c'est quand même les émotions qui font le chamboule-tout. Hein. Donc, il nous faut acquérir vraiment cette maturité émotionnelle et spirituelle. Cette maturité, elle aura des répercussions sur nos relations, car tout notre être sera construit sur la base de nos relations. Et un individu est construit essentiellement sur la base de ses relations depuis la petite enfance, que ce soit avec nos parents, notre milieu familial jusqu'à l'âge adulte, en passant par tous les milieux auxquels nous sommes confrontés. C'est tout ça qui va engendrer notre manière d'entrer en relation avec les autres. Alors notre maturité, elle est fondée sur une prise de conscience de notre responsabilité dans tous les domaines de notre vie. C'est plus, ça me faisait penser aux gosses, vous savez, quand ils se disputent, ils voulaient intervenir. Ouais, c'est pas moi qui a commencé, c'est lui. Quand on interpelle un enfant, c'est jamais lui qui a commencé, c'est toujours l'autre. Non. Prenons nos responsabilités en tant qu'adultes et en tous les cas, au niveau spirituel, en tant qu'adultes, enfants de Dieu, avec une vie spirituelle qui est en accord avec celle que Dieu veut. Et ça va nous permettre de laisser l'autre aussi responsable de sa propre vie. J'assume mes responsabilités, je laisse l'autre assumer ses propres responsabilités. Notre maturité dans nos relations nous donnera de régler notre conduite, non plus sur nos émotions et sur nos instincts primaires de domination, mais sur nos convictions de notre identité ajustée aux fruits de l'esprit, cette identité que nous avons acquise dans le Seigneur Jésus. Alors que Dieu nous aide à assumer tout cela et qu'il nous donne d'avoir des relations de plus en plus équilibrées et sereines et dans la confiance. Amen.